Bonjour à vous tous et bienvenue. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec comme chaque jour vos initiatives, vos créations, pourquoi pas, ainsi que notre patrimoine. Alors aujourd'hui, nous allons à Perpignan, capitale 2019 de la Sardane, et on va tester cette danse catalane. Ensuite, nous rencontrons une scribeuse à Vannes, un métier peu commun. Et enfin, nous allons tester le Vinster, c'est un fromage vegan qui se rapproche, vous l'avez compris, du Munster. Mais auparavant, place à l'actu de ce lundi 11 février. Bonjour Denis Farouf.
Et bon appétit. Bonjour Frédéric Letornier, bonjour à tous.
Ce sont les auto-écoles qui sont dans la rue ce lundi.
À Paris, Bordeaux, Marseille ou Nice pour dénoncer le projet de réforme du permis de conduire et les sites en ligne low cost.
Ça ne va pas fort entre les élus et des citoyens.
Plusieurs dizaines de députés sont protégés au quotidien par les forces de l'ordre. Est-ce qu'à ce niveau, c'est une première, Nicolas Ballu ?
C'est une première sous la 5ème République, mais l'antiparlementarisme est ancré dans la société française depuis très longtemps.
La méfiance gagne du terrain.
Où l'on découvre que la thèse du complot n'est plus anecdotique. Dans l'opinion, Laetitia Evelyne, donnez-nous un exemple.
Le trafic de drogue mondial est orchestré par la CIA. 20% des Français y croient, c'est deux fois plus chez les Gilets jaunes.
La grippe est bien installée, certains ont du mal à trouver un médecin.
Il y a une solution, Nathalie Delpera.
Eh bien oui, comme consulter à distance avec son téléphone portable ou bien son ordinateur.
Comment les amateurs de rugby digèrent la déroute de l'équipe de France hier en Angleterre ?
Ils ne digèrent pas du tout, Jean-Laurent Bernard.
Oui, et comme ça n'est ni la gastro ni la grippe, le problème doit être ailleurs.
Bienvenue à tous, malgré tout, dans Une Heure en France.
Une Heure en France, Frédéric Letornier, Denis Farou, sur France Bleu.
On a compté dans la matinée 500 voitures, puis 1000 voitures d'auto-école aux portes de Paris. D'autres étaient rassemblées à Marseille, Bordeaux ou Nice.
Pour interpeller le gouvernement sur l'avenir de la profession, avec notamment les plateformes en ligne qui prennent le boulot des auto-écoles que nous connaissons, Philippe Blanc tient une auto-école à Senon, près de Bordeaux. Il souhaite prendre sa retraite. Il ne trouve pas de repreneur. Il trouve la concurrence déloyale.
La différence, c'est que l'auto-école normale, comme on dit, 70% de charge, TVA 20%, que les auto-écoles en ligne n'ont pas, tout simplement. Par contre, si on prend le code, effectivement, d'une auto-école en ligne, 30 euros pour 50 séries, alors que nous, les auto-écoles traditionnelles, c'est 150 et une série pour 40 euros. Qui est plus cher que l'autre, là, c'est fait, hein. Il y a le calcul est facile. Donc après, les heures de conduite, moi je suis à 45 euros de l'heure, c'est-à-dire le prix quasiment normal par rapport à toutes les auto-écoles de Bordeaux et de ses environs. Et sur ces 45 euros, ben, il me reste que 6 euros pour moi, pour faire tourner l'auto-école avec deux moniteurs, une secrétaire et deux véhicules, voilà.
Le propriétaire d'une auto-école près de Bordeaux.
La situation se tend entre les citoyens et les élus. On l'a vu encore hier avec des tags du style « élus tous pourris » inscrits sur les murs d'une mairie des Côtes d'Armor.
Ce n'est pas un exemple isolé, et ce, quelques jours après la tentative d'incendie volontaire du domicile breton du président de l'Assemblée nationale. Quelques 80 députés ont été ou sont confrontés à des dégradations, menaces ou agressions. Plusieurs dizaines d'élus de La République En Marche sont désormais sous protection, rapprochés ou pas. Sandra Motin est députée de l'Isère, députée La République En Marche.
Nous sommes nombreux à avoir été pris pour cible, plus d'une soixantaine. Je n'ai pas une protection quotidienne, mais des gendarmes qui veillent tous les jours sur mon domicile et sur ma famille, heureusement. Qui font partie du travail de sécurité des gendarmes qui auraient bien d'autres choses à faire, je suis bien d'accord là-dessus.
Alors à ce niveau-là, est-ce que c'est une première sous la 5ème République, ce qui se passe actuellement, Nicolas Ballu ?
La réponse est oui. Une précision tout de même, pour l'instant il n'y a ni revendication ni arrestation dans l'affaire de la maison de Richard Ferrand, donc dans ce cas présent on va rester prudent. Pour le reste, oui, c'est sans précédent. L'antiparlementarisme est une constante en France depuis très longtemps, mais c'est le fait de s'en prendre aux personnes privées, c'est-à-dire à leur domicile qui est nouveau, et ce degré de violence a déjà existé, mais sous les 3ème et 4ème républiques.
Oui, à quelle occasion exactement ?
On va prendre quelques exemples, la crise viticole au début du 20e siècle, le mouvement paysan dans les années 30, selon l'historien Christophe Bellon, une liste de parlementaires avait même été dressée. L'idée, c'était d'exercer une pression physique contre les députés. Dans les années 50, avec le poujadisme, la révolte contre l'impôt, tiens, les députés sont pris à partie, mais dans les réunions publiques. Et puis si on revient loin en arrière, à fin du 19e siècle, ce sont les dessins de Daumier, avec ces gros sénateurs qui s'en mettent plein les poches. Puis les parlementaires.
Oui, ce qui se passe sous nos yeux est-il vraiment de l'anti-parlementarisme ?
Il y a de ça, mais il y a plusieurs facteurs qui se mélangent. Ce qui se passe actuellement n'est-il pas une détestation de l'élite avant d'être de l'anti-parlementarisme ? Est-ce que c'est pas un mouvement d'abord dirigé contre Emmanuel Macron et ses représentants, qu'ils soient députés ou maires de communes, même s'ils ont moins de pouvoir que sous la 3e et que la 4e République. Ça, c'est un paradoxe.
Merci Nicolas Ballu. On ne peut pas dire en tout cas que la période est à la sérénité. Témoin ce qui suit.
On nous ment, on nous manipule. Jusque-là, les thèses du complot étaient plutôt marginales. Au vu de cette enquête de l'IFOP, elles prennent un peu corps.
Un exemple très parlant. Un Français sur 10 pense que l'attentat au marché de Noël de Strasbourg le 11 décembre dernier est une manipulation du gouvernement pour détourner l'attention des Français en plein mouvement des Gilets jaunes. 1 sur 10, c'est 10% de la population, Laetitia Ouveline.
Oui, c'est beaucoup et c'est encore plus chez les Gilets jaunes qui représentent 18% de la population française selon cette enquête. Le deuxième volet est dévoilé aujourd'hui. Il s'intéresse en particulier à ce mouvement. Le constat est clair, on croit encore plus aux théories du complot chez les Gilets jaunes. Ils sont un quart, 23%, à croire que cet attentat de Strasbourg est une manipulation gouvernementale. C'est la même tendance aussi pour d'autres théories assez diverses. Les traînées blanches que laissent les avions dans le ciel, ce seraient des produits chimiques répandus délibérément. Eh bien, 15% des Français y croient, deux fois plus chez les Gilets jaunes. On grimpe à 57% quand on parle de la mort de Lady Diana, qui serait en fait un assassinat maquillé, contre 35% en moyenne.
Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que les Gilets jaunes croient encore plus à ces théories du complot ?
Eh bien, selon l'étude, plusieurs pistes. Déjà, une vision très répandue dans ce mouvement du combat élite contre peuple. Le niveau de diplôme aussi joue assez faible chez les Gilets jaunes. D'après les experts, moins on fait d'études, moins on est armé pour déjouer les fake news. Surtout qu'avec la méfiance des médias traditionnels, très présente dans le mouvement, la principale source d'information maintenant, ce sont les réseaux sociaux où pullulent les « il paraît que », « on m'a dit » et autres rumeurs.
Laetitia Ouveline et la théorie du complot. Merci à vous.
Le grand débat national se décline profession par profession. Emmanuel Macron a rencontré les syndicats agricoles ce matin, quelques jours avant le salon de l'agriculture.
En Dordogne, la Chambre des métiers a convié des artisans à débattre près de Périgueux, des bouchers, boulangers, maçons, coiffeuses, couturières. Ils ont débattu pendant 3 heures sur la place de l'artisanat, avec parfois des constats amers, comme ce boulanger de Terrasson, où des grandes surfaces de boulangerie sont présentes chez lui.
Deux grandes chaînes qui s'installent à Terrasson et je n'ai plus d'avenir pour moi, donc voir ce qu'on sait qu'on en est. Pourquoi on ne les régule pas, ces grandes chaînes, et pourquoi elles ne respectent pas les lois qu'on impose aux boulangers. C'est-à-dire ils font du 7 jours sur 7 et nous on n'a pas le droit normalement, donc voilà.
Et du coup qu'est-ce que vous en attendez de ces échanges, ce débat ?
Ben, qu'on trouve des solutions. Sinon, moi, je vais arrêter cette activité. J'en suis là, oui. L'administratif, le salariat, voilà. Voilà. Mais bon, déjà, le principal, c'est de gagner sa vie. Si on ne peut plus gagner sa vie, il n'y a plus d'intéressement à mon activité.
Stéphane Lapouillade, boulanger à Terrasson, 6000 habitants, pas très loin de Brive.
13h08 sur France Bleu, la suite d'une heure en France. C'est un match de rugby qui reste en travers de la gorge. Suivez mon regard vers l'Angleterre. C'est aussi un couple d'amoureux que nous rencontrons, 74 ans de mariage. Mais avant, la grippe, elle est à son plus haut niveau de la saison et il n'est pas toujours simple de trouver un médecin disponible.
Et les urgences sont bien occupées aussi, évidemment. C'est peut-être le moment de tester la téléconsultation à distance, donc. C'est ce que vous avez fait, Solène Lehen, et pas seulement pour faire un reportage pour France Bleu, mais parce que vous êtes vraiment au fond de votre lit à l'heure qu'il est.
Il est 9h du matin, la nuit a été difficile, très fiévreuse. Je viens d'appeler mon médecin traitant, elle est débordée, elle n'est pas sûre de pouvoir me prendre en rendez-vous dans la journée, donc on va tenter une application de téléconsultation. Je prends mon téléphone portable, je télécharge l'application. Et voilà, j'ai rendez-vous dans une heure avec un médecin sur mon téléphone portable. Ah, il appelle. Bonjour docteur.
Qu'est-ce qui vous arrive alors, dites-moi.
Fièvre, toux, maux de tête.
Eh ben ça ressemble à la grippe hein, madame, ce que vous avez. Donc dans ces cas-là, nous ce qu'on préconise, c'est le traitement, c'est le repos, c'est le traitement symptomatique. Je vous prescris le paracétamol. Et puis ben, si bien entendu il y a des aggravations, gêne respiratoire, la fièvre baisse pas, etc. Il faudra une auscultation pour écouter les poumons.
Très bien, merci beaucoup.
Au revoir.
Voilà, donc résultat, une consultation qui a duré 11 minutes, une manipulation de l'application en fait assez simple. J'ai mon ordonnance sur ma boîte mail, il n'y a plus qu'à aller à la pharmacie Et puis retour au lit.
Merci Solène Lehen, mais surtout bon rétablissement à vous.
C'est la bonne époque pour tester la téléconsultation, Nathalie Delpera.
Oui, c'est sûr que la grippe en ce moment, eh bien, c'est du pain béni pour les sites de téléconsultation. Alors les tarifs sont les mêmes que pour une consultation avec votre médecin, entre 23 euros et 58,50 euros en fonction de la spécialité et du secteur d'exercice. Vous serez remboursé par la Sécurité sociale à 70%. Ou davantage pour les longues maladies ou les grossesses. Vous devrez donc peut-être faire l'avance de la part de votre mutuelle si vous en avez une. Mais pour être bien remboursé, de toute façon, il vaut mieux déjà avoir vu le médecin en question pour cette consultation à distance ou bien être envoyé vers lui par votre médecin traitant habituel. Sauf pour les patients de moins de 16 ans, une urgence ou ce qu'on appelle les soins en accès direct, comme la gynécologie ou l'ophtalmologie. Les médecins convertis à la méthode y voient l'avantage de pouvoir consulter parfois même depuis chez eux, mais un gros tiers seulement est favorable à cette nouvelle manière d'exercer.
Alors un bémol pour les personnes très âgées.
La consultation se fait uniquement par vidéo. Il faut donc avoir ou un smartphone avec un abonnement internet, ou bien un ordinateur avec une webcam. Sinon, il faudra trouver une maison de santé ou encore une pharmacie équipée d'un chariot de téléconsultation.
Oui, la Sécu va faire un bilan de la téléconsultation 6 mois après son lancement. Ça sera au mois de mars. Merci Nathalie Delpera.
On peut avoir mal à la tête ce lundi même si on n'a pas la grippe.
On a mal à la tête depuis hier après-midi si on n'a pas digéré la fessée de l'équipe de France de rugby en Angleterre. Prendre 40 pions à Twickenham, ça fait très mal. Est-ce que c'est grave, Jean-Laurent Bernard ?
Oui, parce que à ce niveau de naufrage collectif, il faut attendre de toucher le fond de la piscine pour espérer remonter. Rien ne marche dans cette équipe de France. On a vu des chandelles ratées, des lancers de touches amateurs, des en avant plus nombreux que les passes en retrait, des gouffres dans les lignes arrières. Vous savez, au rugby, quand vous êtes manchot et cul-de-jatte, il faut d'urgence envisager de changer de sport.
Bon, qu'est-ce qu'on fait, docteur ?
On arrête le copinage qui prévaut encore dans le rugby de haut niveau en France. Ce ne sont pas les copains qu'il faut faire jouer ensemble, mais les meilleurs, uniquement les meilleurs. Tout est à reprendre, l'entraînement individuel, la construction d'un collectif et des dirigeants à la hauteur de cette bérésina. Aujourd'hui, il nous donne l'impression d'être sans solution inerte.
À 7 mois de la Coupe du Monde, on peut dire que c'est plié pour l'équipe de France ?
À la différence du foot où parfois un choc psychologique peut suffire, le plus fréquent d'ailleurs c'est le changement d'entraîneur. En rugby, il faut plusieurs années pour construire une équipe, lui donner une âme, un talent et une stratégie. Pour sortir des poules au Japon dans 7 mois, il faudrait que Pier Giorgio Frassati fasse des heures supplémentaires. C'est le saint patron des sportifs.
Ah, merci pour la précision pour ce mal de tête du lundi midi, lendemain de défaite de l'équipe de France. Jean-Laurent Bernard.
Et pour ne rien vous cacher, on avait besoin d'un petit peu de douceur pour débuter la semaine dans cette actu pas toujours réjouissante. De douceur et d'espoir aussi avec ces deux habitants des Landes, mariés depuis 74 ans et qui ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre.
Jean a 100 ans, Sylvie 93 ans. Et vous avez rencontré le couple de tourtereaux dans le nord des Landes, François-Pierre Noël.
Sylvie est appuyée sur sa canne tout en regardant Jean en souriant, c'est presque automatique. Et quand elle repense aux années passées depuis leur mariage, elle n'imaginait pas une telle longévité.
Nous sommes arrivés à 74 ans de mariage, on se demande comment. Très souvent je lui dis, écoute, nous sommes favorisés, nous sommes heureux, et nous n'avons pas le droit de nous plaindre. Parce que nous sommes tous les deux ensemble, vraiment, et nous finirons certainement la vie ensemble.
Jean a 100 ans, Sylvie 93, et pourtant ils vivent toujours dans leur petite maison à La Bouère. Chacun est constamment là l'un pour l'autre, hein. Quand Sylvie entend mal, Jean n'hésite pas à lui répéter 2 fois la même phrase, même si parfois il existe quelques petites tensions, c'est vrai.
Quand je le vois trop frétillant après une dame, ça m'agace. Parce que moi, honnêtement, je n'ai jamais remarqué un gars, quoi, pour ainsi dire.
Elle était jalouse, elle l'est tout le temps. Elle a 100 tempéraments, jalouse. Elle a toujours été un peu jalouse. Je ne pouvais pas présenter trop, parce que aussi quelques femmes venaient me faire un petit mamou, elle était jalouse.
Mais bon, Sylvie tient à nous rassurer, elle n'est plus jalouse aujourd'hui. Ce qu'ils craignent maintenant, c'est de vivre l'un sans l'autre.
Je pense que si un s'en va, l'autre, il ne va pas vivre longtemps, vous savez.
Ah non, je ne me vois pas toute seule, je ne sais pas comment je me débrouillerai. Et vous savez, quand vous avez vécu 74 ans avec votre mari, on voit difficilement la vie sans le mari.
Jean et Sylvie dans les Landes, ils se sont mariés en 1945.
Merci pour ce bon moment, François-Pierre Noël.
Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, je vous aime.
Et après ce mot d'amour de Juliette Gréco, on va danser la sardane, découvrir le métier de scribeuse et puis découvrir aussi un fromage qui n'est pas un fromage.
C'est un fromage. On est à Perpignan en Bretagne et en Alsace après la météo du jour.
FranceBleu.fr. Toutes les infos pratiques de France Bleu, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr.